Hello and welcome to Tour de Table, a podcast series dedicated to a bilingual discussion of the political, economic, and security challenges confronting our world and whether and how Canada is prepared to address them. I'm Jennifer Welsh, a professor of global governance and security at McGill University, where I direct the Center for International Peace and Security Studies.
Et je vous souhaite aussi la bienvenue de l'autre côté du Mont-Royal. Je m'appelle Frédéric Mérand, professeur et directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ensemble, Jennifer de la Saskatchewan, moi du Québec, nous offrons un point de vue montréalais et canadien sur le monde. Bonjour Jennifer.
Bonjour. On today's episode of Tour de Table, we're broadening out from our previous series on the UN system to look more deeply at the nature of contemporary conflict, the ways in which governments, regional organizations, institutions are struggling to prevent and manage conflict, and how we might think about the whole business of trying to make and sustain peace in this second decade of the 21st century. And as we record this episode, questions are being asked about the future and effectiveness of UN peacekeeping, the need for new approaches to diplomacy and mediation, and the prospects for realizing the call to double down on conflict prevention as opposed to continually engaging in crisis response. So to discuss all of these issues, we're very happy to be joined by Jean-Marie Gehenno, who has held numerous senior level positions during his distinguished career, spanning peacekeeping, international security, and defense policy. He is currently the Arnold A. Saltzman Professor of Practice in International and Public Affairs and the director of the Kent Global Leadership Program in Conflict Resolution at the School of International and Public Affairs at Columbia University in New York. He's a member of the UN Advisory Board on Disarmament and of the High-Level Advisory Board on Mediation created by Secretary General Antonio Guterres, as well as a distinguished fellow at the Brookings Institution. Particularly notable for our conversation today, Jean-Marie was the former president and chief executive officer of the International Crisis Group, the world's premier think tank dedicated to monitoring conflicts and promoting conflict prevention. He was also the UN Undersecretary General for Peacekeeping Operations from 2000 to 2008, becoming the longest serving head of peacekeeping and leading an unprecedented expansion of peacekeeping. And before joining the UN, Mr. Gehenno had a distinguished career in the French government and the private sector. Jean-Marie's published articles in many newspapers and magazines and is the author of several books, including La Fin de la Démocratie, a book acclaimed by The Economist as one of the first books to have identified the challenges of globalization, and we want to talk about that with him today, The Fog of Peace, a memoir of peacekeeping in the 21st century, and most recently, The First 21st Century, From Globalization to Fragmentation of the World, published in 2021. Welcome to Tour de Table, Jean-Marie.
Glad to be with you.
So I wanted to begin our conversation by reflecting on a contrast. In January 1992, during that very heady period of excitement following the end of the Cold War, the UN Security Council held its first ever summit. And among other things at that time, heads of state and ambassadors assembled asked the then Secretary General, Boutros Boutros-Ghali, to provide recommendations on how to bolster the UN's capacity to resolve conflict and maintain peace in that new post-Cold War era. His subsequent report, An Agenda for Peace, outlined the new processes and capacities that could be developed to tackle new threats to international security. And certainly in the 1990s, we saw the creation of new capacities, the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, the Office of the Coordinator for Humanitarian Affairs, and an expansion in the purposes and nature of peacekeeping, which you, of course, became a central part of. If we beam ahead roughly 30 years later, this past summer, our current UN Secretary General released a new agenda for peace, written in preparation for a forthcoming Summit of the Future in 2024. And the tone of this new agenda is markedly different from the earlier one. In fact, it paints a pretty grim picture of the set of interlocking threats facing our world and the inability of governments to find common ground to address them. Above all, it seems to strike a different vision of the UN, One that's very much backstage, supporting states and other actors if they can find ways to cooperate, but not necessarily leading peace efforts or providing a significant footprint in conflict zones. So Jean-Marie, I wanted to ask you what you found most interesting and important about the new agenda for peace, and whether you believe it captures the core challenges we're facing, and whether the role it outlines for the UN system seems fit for purpose.
Well, what struck me first is what you notice when you say study in contrast. I think the first agenda for peace really reflects a world where there is a sense of new opportunities, where there is a sense of new possibilities. And so it tries to chart a course on how to make the best of those new opportunities. The agenda for peace of this year is the exact opposite. There is a sense that the space for multilateralism is shrinking, that there is a rapid deterioration of the world. And so instead of thinking of how to build institutions, how to strengthen the institutions of multilateralism, it's a much more defensive view of the world. It's interesting that it goes back, in a way, to first principles. It talks about trust. It talks about solidarity. It talks about universality, squarely putting the burden on the member states, on the international community. It's fine to have institutions, but if there is no political will, if there is no appetite for a certain set of principles, there's no belief in a certain set of principles, all the institutions of the world will not do the trick. And so I think the United Nations is right to remind the world that if it does not genuinely and sincerely adhere to those principles, the best institutions will not produce much. My fear, to be honest, with the new agenda for peace, as with the summit of the future, is that there is a gap between the sort of lofty ambitions that remain. You know, I see abolition of nuclear weapons, for instance, which is certainly a legitimate goal, but at the same time, it was not within reach at the time of the first agenda for peace. It's even less so today. And so my fear is of a gap between the rhetoric and the reality. And I wouldn't want the people of this planet to think that the UN is just a talking shop. That's the worry, and that's the worry with the summit of the future, because in the present very fraught climate, to be honest, I have doubts that there will be major breakthroughs. And so if you raise expectations and then not much happens, then it makes things even more difficult. That's my concern. At the same time, the new agenda for peace does point to new issues that are well worth working on, you know, the nexus between climate and conflict, all the new battlefields, which can also be new instruments for peace, from artificial intelligence to cyber. There's a whole new tech revolution that the UN is very focused on, and maybe pointing the member states in that direction is a good thing. But at the same time, you have to be afraid that the general context is the exact opposite of the context we had in 92. Although in 92, you had the Yugoslav war, but there was still a sense of promise of the future. I don't think that sense is there today.
And it's interesting, I had the same impression when reading it that you do, that it really goes back to these first principles, this idea of you need as member states to trust one another, you need to find common ground, a way in which to forge that. And it strikes me that that also calls for diplomacy. You know, it takes us back to very traditional notions of diplomacy and what diplomats are meant to do. And just as a quick follow-up, I'd be interested in your view on why on some of those issues, if it paints this grim picture, is it so forward-leaning, like the complete disarmament, the abolishment of nuclear weapons? Do you think this is the UN still trying to be the one body that keeps these ideals alive? Because I too found the contrast in that document quite striking. On the one hand, there's a realism about the context. Yet on the other hand, there are goals that seem very difficult to reach. And I wonder what your speculation is on the reason for that.
To be honest, I was puzzled by that because I'm looking for an explanation. I think part of it is indeed the belief that this is not the time to just give up. And so stating strong, ambitious goals is still needed. That's probably what's behind that. But it's such a contrast with a rather grim and very realistic, very good analytical framework. But the contrast is, in my view, a bit dangerous because it leads to what I was just saying, that the sort of gap between the rhetoric of ambitions and the reality of very limited action. And I think that that may be what people will see. And this is the last thing you want. You don't want people to think that the United Nations is a talking shop, because even now it's much more than that. It does a lot of things in many domains.
Jean-Marie Guéhenneau, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cet écart entre la rhétorique et la réalité qui vous inquiète, en observant plus spécifiquement la question du maintien de la paix ou de ce que l'ONU appelle les opérations de paix. Ici non plus, on ne peut pas dire que, ou ici aussi, on peut dire que l'enthousiasme des années 1990-2000 semble avoir laissé le pas à un cynisme un peu paralysant. Cet automne, le président de la République démocratique du Congo a annoncé l'accélération des plans visant à retirer la mission de maintien de la paix de son pays. On se rappelle que c'était la plus grande et la plus longue des missions de l'ONU. On sait que la mission des Nations Unies au Mali est confrontée à une série de défis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, même si ce serait impossible en raison du veto russe ou américain au Conseil de sécurité des Nations Unies, on n'entend même pas de voix pour réclamer des opérations en Ukraine, par exemple, ou en Palestine. Et puis là, c'est peut-être complètement anecdotique, mais je crois que même sur le billet de 10 $ canadien qui affichait fièrement des soldats de la paix, je crois que ça a disparu aussi. Donc, j'ai envie de vous demander, comment évaluez-vous l'état actuel des opérations de paix de l'ONU?
Non, il est certain que quand je dirigeais les opérations de maintien de la paix, on était dans un grand moment d'optimisme. Peut-être exagéré d'ailleurs. Il y avait une sorte d'hubris à l'idée qu'on allait reconstruire des pays. Aujourd'hui, ma crainte, c'est que le balancier aille dans l'excès opposé, c'est-à-dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Et je crois que le défi auquel il faut répondre, c'est de calibrer nos ambitions. Alors, vous avez parlé de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'une mission de la paix, elle a une fenêtre d'opportunité dans les premières années, mais que cette fenêtre se ferme. C'est-à-dire, quand une mission de maintien de la paix se déploie, et je l'ai vu en RDC, il se trouve que j'étais à Kisangani le jour où des soldats du maintien de la paix se déployaient pour la première fois à Kisangani, et il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Kisangani qui avaient l'impression que le sauveur était arrivé. Et je crois que c'est ce qui se passe dans beaucoup de missions de maintien de la paix. Quand elles arrivent, les malheureux qui ont été au milieu des conflits, qui ont souffert, ont l'impression que leur vie va changer d'une façon décisive. Et puis, le temps passe. La mission de la paix peut faire une différence, ça dépend, enfin il y a beaucoup, ça c'est un long débat, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conditions à respecter, mais elle peut faire une différence. Mais cette différence n'est jamais à la hauteur des espérances qui ont été mises en elle. Et donc au bout de quelques années, une mission de maintien de la paix, elle a tendance à être vue, même si c'est le drapeau des Nations Unies, comme une sorte d'entreprise coloniale. Et il est clair que en République démocratique du Congo, après 20 années, plus de 20 années, presque un quart de siècle de présence, c'est le cas. La mission de maintien de la paix n'a plus de véritable crédibilité auprès de la population congolaise. Alors, quelles leçons tirer de tout cela? Moi, je crois qu'il y aura encore des situations où on aura besoin d'une force tierce, que l'idée de Lester Pearson a toujours son actualité. Vous avez parlé de Gaza, de la Palestine, vous avez parlé de l'Ukraine. Aujourd'hui, C'est difficile d'imaginer des casques bleus dans les deux cas pour des raisons politiques que vous avez évoquées, mais je ne jurerai pas que à un moment ce sera une possibilité. Alors, dans le cas de Gaza, à mon sens, ça serait plus une mission de peace enforcement plutôt que de maintien de la paix, une mission autorisée par les Nations Unies. Mais quand on regarde historiquement le maintien de la paix, les hauts et les bas du maintien de la paix, on voit que on a prédit sa fin déjà un certain nombre de fois. Si vous m'aviez interrogé en 1999, après les tragédies du Rwanda, de la Somalie, de la Bosnie, on donnait pas cher du maintien de la paix. Et puis, quelques mois plus tard, c'était le début d'une expansion qui a amené le maintien de la paix à plus de 100 000 troupes déployées à travers le monde. Alors, je ne pense pas qu'on soit à la veille d'une expansion de ce type, certainement pas. Mais je pense que le maintien de la paix, il s'est réinventé un certain nombre de fois et il se réinventera. Je crois que la manière dont il se réinventera, ça sera certainement un maintien de la paix beaucoup plus focalisé qu'il n'a été. L'idée d'agir d'une façon, d'orchestrer au fond, de façon très large l'action internationale, c'est sans doute une ambition excessive. Brahimi, déjà, en fait, était sceptique là-dessus dès les années 2000. Je crois qu'aujourd'hui, les États sont dans le doute là-dessus. Un maintien de la paix, donc, plus focalisé, avec davantage de sens des priorités. Et un maintien de la paix qui, probablement, essaiera moins de se substituer aux États que de les appuyer. Parce que quand ils se substituent aux États, au fond, ils les déresponsabilisent. Et c'est un peu la perversion de ces missions qui restent trop longtemps. Quand vous voyez la République démocratique du Congo, les Congolais se plaignent de ce que la MONUSCO n'arrête pas les violences dans l'est du pays, etc. Mais en même temps, c'est au bout de 20 ans, ça devrait être le pays qui les arrête, ça devrait être les forces nationales qui les arrêtent. Et la mission de maintien de la paix tombe là dans un piège où elle sert de bouc émissaire au lieu d'être un appui qui pousse un gouvernement à développer ses propres capacités. Donc je crois qu'il y a des transformations profondes à faire, que le maintien de la paix devrait vraiment, non pas repartir de zéro, mais être très imaginatif aujourd'hui, pas essayer de simplement maintenir l'acquis du passé. Je crois que c'est aussi la condition de sa crédibilité vis-à-vis des États sans lesquels il n'est rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'États qui ont des pressions budgétaires, on a dépensé pour le Covid, on a dépensé pour faire face au risque de crise économique. Donc, tous les États ont vu leurs dettes gonfler, les États qui payent, ils ne veulent plus de ça. Ils ont eu des doutes sur la substance des opérations, à la fois pour les opérations de l'ONU et puis pour alors des interventions comme celle des États-Unis en Irak ou bien l'Afghanistan, où la force militaire n'était pas une force de l'ONU. Mais tout ça fait qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on n'a pas envie de dépenser trop d'argent, et on est moins bienvenu. Quand on combine tout ça, on peut être très pessimiste. Moi, je ne le suis pas vraiment, parce que je pense que dans un monde comme le nôtre, je reviens à ce qu'on disait sur le nouvel agenda pour la paix, la question de la solidarité est toujours présente. Et qu'il y a beaucoup de zones du monde où ce besoin de solidarité est nécessaire. Et ça pose une question particulière vis-à-vis de l'Afrique. Parce qu'on parle, on dit beaucoup, solution africaine pour les problèmes africains. Je pense que c'est un objectif, évidemment, qu'on doit tous poursuivre. Mais en même temps, il y a une certaine hypocrisie quand on affirme cet objectif. Parce que il y a toutes sortes de situations où, en réalité, les États de la région n'ont pas toujours les moyens, les ressources pour faire face à des problèmes considérables. Et il y a une certaine hypocrisie des pays en dehors d'Afrique qui disent « Ah, très bien, solution africaine pour les problèmes africains, c'est aussi une manière de se dégager. » Et ça, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique. Ce qu'il faut, c'est trouver une relation de respect et dans la dignité avec l'Union africaine, avec les organisations sous-régionales africaines, pour que l'Afrique travaille, je dirais, sur un pied d'égalité avec ses partenaires internationaux. Je ne pense pas qu'il faille que les partenaires internationaux abandonnent l'Afrique.
C'est un portrait sobre et nuancé que vous faites des opérations de paix. Et je trouve aussi très intéressant que vous n'opposez jamais les organisations internationales comme l'ONU aux États, puisque au final, rien n'est possible sans ces États. Et ce, bon, avec Jennifer, je pense que vous allez revenir vers l'ONU plus spécifiquement dans quelques instants, en tout cas je le soupçonne, mais j'aimerais vous amener aussi vers un autre sujet que vous avez beaucoup analysé, avec aussi nuance et sobriété, et c'est celui de la mondialisation. Jennifer a mentionné plusieurs ouvrages que vous avez publiés. À titre personnel, je vous suis attentivement sur X. Jennifer a abandonné Twitter depuis très très longtemps, je crois.
Elle est sage.
Vous êtes un commentateur influent en français et en anglais. Et dans votre dernier livre, Le premier 21e siècle, on vous parlait d'écologie, de numérique, de géopolitique, aussi de politique tout court. Et j'aimerais vous citer, vous dites « L'individu qui croyait changer le monde est de plus en plus écrasé par lui. » Il a perdu confiance dans la politique et l'utopie identitaire remplace l'utopie politique. Je ferme les guillemets. C'est comme si plus on embrassait la mondialisation dans nos pratiques sociales et plus elle devenait incontournable, plus on la rejetait dans nos comportements politiques. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus.
Mais je crois que les êtres humains ont besoin d'un horizon. Ils ont besoin d'une coquille. Et que c'est assez angoissant d'être tout seul, en quelque sorte, face à l'universel. Nos sociétés, elles n'ont pas réussi, à mon sens, à trouver un équilibre satisfaisant entre la promotion de l'individu, qui est une force extraordinaire, qui a transformé le monde dans les derniers siècles. Cette énergie des individus, c'est vraiment ce qui a bouleversé le monde depuis la Renaissance. Mais en même temps, la dimension collective. Équilibre. Les individus ne peuvent pas vivre seuls, ils ont besoin d'un sentiment d'appartenance à une collectivité. Et cette globalisation qui se fait d'abord sur des bases économiques, où le sentiment de l'universel, on en revient toujours au nouvel agenda pour la paix, de l'universalité, n'est pas tellement là. Ce qui est là, c'est simplement le fait qu'on est connecté au reste du monde. Mais connecté ne veut pas dire qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on a un terrain commun sur lequel on se retrouve. Je crois que ce décalage entre le fait que nos destins sont indiscutablement liés à des acteurs que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas, c'est un sentiment très angoissant. D'où ce qu'on voit aujourd'hui, où les projets politiques sont remplacés de plus en plus par des projets identitaires. Je crois que, d'une certaine manière, malheureusement, en partie à juste titre, on croit de moins en moins à un programme politique, parce que aucun pays, même les plus puissants, même les États-Unis, même la Chine, ne peuvent complètement maîtriser leur avenir. On voit bien, bon, aujourd'hui, comment va se porter l'économie chinoise? Ça influera sur nos économies. On est tous dépendants les uns des autres, ce qui devrait créer un sentiment de solidarité, mais qui crée surtout un sentiment d'impuissance. Et donc, face à ce doute sur la politique, on se réfugie dans l'identité. Et cette fuite dans l'identité, je crois qu'elle a une dimension très dangereuse. Parce que c'est bien d'avoir une identité, c'est bien de se sentir en communauté avec une dimension collective qui est plus grande que soi-même. Mais en même temps, quand c'est l'identité pour l'identité, ça crée un sentiment de fragilité parce que cette identité, justement, on la sent menacée, attaquée de toutes parts. Et c'est pour ça que vous avez tellement de guerres où les raisonnements classiques, je dirais, du réalisme à la Mersheimer, pour prendre un exemple dont on parle beaucoup en ce moment à propos de l'Ukraine, les raisonnements classiques ne fonctionnent pas vraiment parce que quand vous regardez la Russie, par exemple, aujourd'hui sur l'Ukraine, finalement, c'est à certains égards une guerre identitaire, c'est une certaine vision de l'identité russe qui se joue dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et le problème des identités, c'est qu'elles ne se négocient pas, que c'est votre existence, que c'est soi-même. On ne négocie pas son identité. Et donc, on est dans ces guerres sans fin parce que c'est des guerres sur soi-même. On pourrait dire d'une certaine manière que ce qui se passe entre Israël et la Palestine, il y a aussi une dimension identitaire. Qu'est-ce que la Palestine? Qu'est-ce qu'Israël? Quelles sont les identités de ces deux peuples? Comment négocier un compromis entre ces identités? Alors, on joue sur le territoire, mais là, on tombe sur toutes sortes de difficultés. Donc, moi, je pense que cet âge identitaire, il complique terriblement la vie internationale, il la rend plus dangereuse parce qu'il mêle de façon inextricable, je dirais, la politique intérieure et la politique extérieure. Le plus grand événement de politique extérieure l'année prochaine, ça sera un événement de politique intérieure. Ce sera de savoir si M. Trump sera élu ou non. Et donc, la dynamique intérieure des États-Unis, c'est ce qui va être le plus important dans les relations internationales. Et on peut le dire de beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'Inde de Modi, c'est aussi une dynamique intérieure. Et tout ceci est toujours lié à une sorte de fragilité des communautés humaines qui sont tiraillées par la globalisation et qui se retrouvent dans cette identité qui leur permet de garder une certaine cohérence, cohérence nécessaire, mais qui se fait au prix souvent de la xénophobie et de la fragmentation du monde. C'est pour ça que j'ai parlé de la globalisation à l'émiettement du monde dans mon dernier livre.
Cet âge identitaire, il se nourrit aussi, me semble-t-il, d'un sentiment d'injustice qui s'est développé peut-être davantage au cours des trois dernières décennies, alors qu'on célébrait l'ordre international libéral ou fondé sur des règles. Et beaucoup de gens sont encore nostalgiques de cet ordre, de ce monde qui s'était mis en place après la fin de la guerre froide. Est-ce que vous pensez qu'il faut regretter le monde d'avant ou pas?
Je suis ambivalent là-dessus, parce que il faut en même temps reconnaître, nous parlons depuis des pays riches, le Canada, les États-Unis, l'Europe, ça, nous sommes dans la richesse. Quand on est indien ou quand on est chinois, les dernières décennies, elles ont vu une augmentation considérable des inégalités à l'intérieur de l'Inde ou de la Chine, surtout de la Chine, qui du système même très égalitaire l'émergence de milliardaires chinois, il y a une grande différence. Mais derrière ces milliardaires, il y a quand même des centaines de millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté et de la misère. Et donc, je crois que les trois dernières décennies, pour des centaines de millions d'êtres humains, ce sont des décennies qui ont été des bonnes décennies. Et eux, d'ailleurs, ne voient pas aujourd'hui l'avenir avec le même pessimisme que les pays occidentaux, parce que ils espèrent que cette marche vers le progrès, cette sortie de la misère, va continuer. Et elle continue dans un certain nombre de pays. Quand vous voyez comment l'Asie du Sud-Est se développe, c'est tout à fait remarquable. Alors, avec des inégalités, mais malgré tout, les inégalités entre pays se sont réduites au cours des dernières décennies. Donc, je crois que la question de l'inégalité est une question vraiment complexe et que dans nos pays riches, ce qu'on voit, c'est effectivement une extrême concentration de la richesse, une classe moyenne qui a peur de perdre son statut dominant dans la société. Et je pense que ce sentiment d'inégalité, il ne peut qu'être renforcé par la manière dont le pouvoir se concentre avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire que les grandes entreprises de l'Internet sont en train d'acquérir des pouvoirs qui sont sans précédent. Elles ont une capacité de nous manipuler, de nous contrôler, qui est extraordinaire. Alors, ce sont les entreprises en Occident, c'est l'État dans des pays autoritaires comme la Chine, mais là, il y a une inégalité de pouvoir qui est terrible et qui est très inquiétante pour l'avenir, disons, d'un monde démocratique où chaque individu est un peu maître de son destin. Et ça me fait peur.
Jean-Marie, I found your reflections on politics and how the processes of politics and the consensus building that's required for political solutions is challenged by this focus on identity. And I want to take us back to conflict prevention and resolution, because at least as I understand it and have studied it, it is always the search for political solutions that one is seeking in conflict prevention, but even as you were mentioning, in the evolution of peacekeeping, that need to keep a political solution in sight, even with very long-standing missions like the one in the Democratic Republic of the Congo. And I think, you know, we might be able to learn from a specific case in terms of reflecting on some of the challenges with conflict prevention. And so I want to talk particularly about Syria, given your role there, because when Kofi Annan was appointed joint special envoy for Syria in 2012, you were selected to be his deputy. And when I look back at that time, it appeared to be a moment, you might tell me I'm wrong, in which diplomacy and conflict prevention, or at least the prevention of escalation, which is, I think, often what we're really faced with, was within reach for the international community. It is more than 10 years later, and we still have an ongoing conflict in Syria. What are your reflections on that period now? Were there missed opportunities? How do you reflect on the early years of the Syrian conflict?
Je crois que la question de la prévention en Syrie est effectivement une question qui m'a beaucoup fait réfléchir parce que à quel moment aurait-on pu empêcher une telle tragédie? Et je crois que à cet égard, il faut remonter peut-être encore plus loin que la période pendant laquelle j'étais avec Kofi Annan. Je crois que les choses probablement commencent à se jouer dès les premières années du régime de Bachar al-Assad. Parce que à cette époque, rappelons-nous, les Occidentaux, les Anglais, les Français étaient tout ravis de voir la Syrie s'ouvrir économiquement par rapport au régime socialiste de son père, de Hafez al-Assad. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a encouragé cette ouverture économique qui a pour le coup accru les inégalités en Syrie d'une façon tout à fait significative, avec une bourgeoisie des villes qui est toute une classe d'entrepreneurs qui a bénéficié de cette ouverture, pendant que les paysans voyaient le système de protection qui leur garantissait un certain niveau de vie s'effondrer. Donc on a encouragé cette ouverture économique qui créait de nouvelles tensions sociales, socio-économiques en Syrie, sans se préoccuper vraiment de la transformation politique. Le régime est resté complètement verrouillé comme il l'était sous Hafez al-Assad. Et je pense que peut-être là, une grande occasion a été manquée. Alors ensuite, on arrive à la période où j'étais avec Kofi Annan. Et Kofi Annan a abordé la question comme l'ancien secrétaire général des Nations Unies qu'il était. C'est-à-dire que son approche que je partageais était qu'il il fallait partir du cercle le plus large, du cercle des puissances globales, trouver un accord entre Russie et États-Unis. Et cet accord entre Russie et États-Unis permettrait de peser sur les acteurs régionaux qui chacun avait leur protégé en Syrie, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie. Et donc, du cercle extérieur, on irait peu à peu vers le cercle intérieur. Les acteurs régionaux, au lieu d'alimenter le conflit, pèseraient pour le réduire et les tensions intra-syriennes, du coup, pourraient être contenues. Et une mission de maintien de la paix viendrait consolider cela. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour quelle raison? D'abord parce que, au fond, on est dans la période charnière où la relation avec la Russie, on est un peu après l'affaire de Géorgie, où la relation avec la Russie, avec Poutine, est en train vraiment de basculer. Mais elle n'a pas encore complètement basculé. Moi, j'ai été dans beaucoup de conversations entre Russes et Américains pendant cette période. Et je crois que les Russes n'aimaient pas beaucoup Assad. Ils ne l'aiment toujours pas beaucoup. Mais ils ne voulaient pas un saut dans l'inconnu. Ils voulaient qu'on leur donne un mode d'emploi qui permettait de passer de Assad à quelque chose d'autre. Et ça, personne n'avait la recette. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est, alors là, c'est le hasard, c'est la contingence des événements. Quand Kofi Annan a réussi à obtenir le déploiement d'une mission d'observateurs en Syrie, moi, j'étais sceptique, j'étais plus sceptique que lui sur la possibilité que cette mission réussisse, parce que je pensais que pour l'opposition, ces observateurs, c'était d'abord une manière de créer un espace politique, une sorte de Tahrir Square qui permettrait de mettre par terre le régime, alors que pour le régime, c'était simplement une pause tactique. Donc, les objectifs étaient trop fondamentalement opposés pour que ça puisse marcher. Mais Kofi Annan, et je crois que rétrospectivement, il a eu absolument raison de tenter, il voulait créer le Big Bang de la paix. C'est comme ça qu'il a procédé au Kenya, d'une certaine manière. C'est l'idée que vous créez une situation nouvelle et que tout le monde se repositionne à ce moment-là. Et donc, ce qui paraissait impossible avant devient soudain possible. Et quand on voit comment ça s'est passé, il y a eu une quinzaine de jours où l'histoire a un peu hésité, parce que, au fond, tout le monde retenait son souffle. On voyait ce glissement vers la violence, et puis ça semblait s'arrêter. Et il y a eu un moment où on a pensé que ça pouvait basculer. Et puis il y a eu un massacre dans un village syrien, à Houla, par des milices pro-Assad, et tout s'est très rapidement défait. Et c'est là qu'on voit bien que l'histoire, il y a toujours... ça n'est pas quelque chose de mécanique. Kofi Annan a eu raison de prendre ce risque. Ça aurait pu marcher. Mais bon, les circonstances l'ont empêché. Et ensuite, on a la réunion de Genève, l'impossibilité d'un vrai accord entre Russes et Américains, le communiqué à peine sorti quand on demande à Hillary Clinton « Mais alors, est-ce que Assad peut rester ?» Elle dit « Mais bien sûr que non, il ne passera jamais le test du mutual consent. » Et quand on pose à Lavrov la même question, il dit « Mais moi, je ne vois pas où ça sera aussi rien de décider. » Et du coup, il n'y a plus de possibilité d'accord. Toute ambiguïté constructive disparaît. Kofi Annan le comprend et c'est pour ça qu'il donne sa démission un mois plus tard.
Fascinating. And it's interesting, I mean, what you say about how, you know, history is not mechanical and the massacre at Houla that you describe, the impact that it had. But also, it's really interesting your comments about Russian attitudes at the beginning vis-a-vis Assad. Because, of course, now when we look back in the kind of second period of the civil war, maybe not quite the second period, the end of the first half, shall we say, of the Syrian civil war, of course, Russia intervenes very dramatically in the conflict. And on the side of the Assad government, many see that as a turning point. I wonder here, too, how you would assess the importance of that moment and what it meant for possibilities of mediation. But also, you know, as we talk about so often now, when we're looking at Russia's approach to fighting in Ukraine, many argue that some of the approaches that it took in Syria provided clues to how it would engage in conflict later itself.
Well, first, I would say that for Russia, the Middle East is really the near abroad. In some way, Russia is a Middle Eastern power. It is its immediate neighborhood. And in that sense, it had a kind of, I mean, to use the jargon of nuclear deterrence, it had a kind of escalation dominance, because it was certainly not a top priority for the United States. And it wasn't for the Europeans until they saw immigrants moving into Europe. There was a sort of rhetorical interest for the Middle East, but the Middle East was not really part of the European space. I think it was much more so for Russia. And then you have the evolution of Russia, the consolidation of a certain strategic direction, where Russia sees things more and more in a sort of zero-sum game, and where it sometimes wants to act as a spoiler, and certainly sees any encroachment on its influence as a defeat. And so the possibility of a compromise on Syria becomes unrealistic. And you have the strong military support of Russia in the air, Iran on the ground to Syria, that completely changes the balance of power. And Russia then sees can test that it has the upper hand in terms of escalation dominance. The famous, you know, story with Obama and the red lines, the sense that, yes, the Western powers may talk the talk, but they don't really, when it push comes to shove, they're not really there. And so that certainly emboldens Russia and gives it a sense that it can really call the shots.
Moi, je pense que, considérant les rôles que vous avez joués aux Nations Unies et puis aussi en tant que PDG de International Crisis Group, on pourrait parler pendant très très longtemps de la, prévention, malheureusement, le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. J'aimerais quand même vous poser une dernière question, plutôt sur le temps présent et toujours sur la prévention, Jean-Marie Guéhenno. Quand les tensions sont aussi vives qu'elles le sont aujourd'hui, et dans les moments d'urgence, il m'apparaît plus difficile de faire de la prévention, malgré toutes les vertus de cette stratégie. Il est plus difficile de faire dialoguer des rivaux, des belligérants. Les ressources sont mises à un autre endroit. Comment priorise-t-on les enjeux? Comment fait-on de la prévention dans ces moments où le temps s'accélère et où les tensions s'aiguisent?
La prévention, ça suppose qu'on soit prêt à prendre quelques risques. Si on ne prend aucun risque, il n'y a pas de prévention. Oui, aujourd'hui, tout le monde dit, à juste titre, on est en face d'une catastrophe au Moyen-Orient. Mais la prévention, ça aurait été depuis 15 ans de s'occuper de la question israélo-palestinienne, alors qu'en réalité, depuis 2008, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. Alors, on dit Netanyahou était très cynique, tout ça, c'est vrai. Mais la communauté internationale aussi, parce que finalement, tous les pays arabes qui signaient les accords d'Abraham, les pays occidentaux qui s'en félicitaient, tout le monde était très content si on pouvait faire la paix entre les États en oubliant la paix entre les peuples. Et la prévention, ça aurait été de comprendre qu'il fallait s'occuper des choses avant qu'elles n'explosent. On ne l'a pas fait. Parce que le faire, c'était prendre un risque politique, parce que tout le monde sait bien que, effectivement, c'est une question extraordinairement difficile à régler que la question d'Israël et de la Palestine. Et donc, pour un responsable politique, de prendre des risques là-dessus, si la maison n'est pas en feu, pourquoi le faire? On risque de se casser le nez sans résultat. La prévention, c'est d'accepter qu'on tente quelque chose, même si on n'est pas certain de réussir. Et ça, dans un monde où le cycle politique est de plus en plus court, ça n'est pas quelque chose de très appétissant. Les responsables politiques préfèrent de beaucoup se lancer dans des actions où les résultats seront visibles et où le risque est moins élevé. C'est pour ça qu'on a tellement de mal avec la prévention.
Encore une fois, nous allons conclure sur cette sobriété et cette nuance qui vous a caractérisé pendant toute l'entrevue. Je pense que Jennifer, les auditrices et les auditeurs et moi-même ne pouvions rêver d'un meilleur invité que vous pour parler de ces sujets avec nous à tour de table aujourd'hui. Merci infiniment, Jean-Marie Guéhenno.
Merci. Thank you all.
Alors, pour en apprendre davantage sur l'Université de Montréal, le département de sciences politiques et le Centre d'études et de recherche internationales, vous pouvez me suivre sur Twitter X, comme vous pouvez toujours suivre pour l'instant Jean-Marie Guéhenno, et suivre ses analyses. Et moi, j'aime bien partager les activités et d'autres analyses de mes collègues.
And to learn more about McGill University's Center for International Peace and Security Studies, please visit us at sepsi-sips.ca. Follow us on X at @sips_McGill. To subscribe for more episodes of Tour de Table, you can also consult our website, sepsi-sips.ca. That's it from us. Thank you so much to Karim Faraj, our producer. We hope you enjoyed listening.